الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dans la partie en arabe, nous avons parlé de l'importance de l'invocation, tout particulièrement durant ce mois béni où Dieu exauce nos demandes, et nous sommes appuyés sur l'histoire de Zacharia, ce prophète qui avait atteint un âge avancé, dont la femme était stérile. Mais après avoir vu le miracle de la subsistance offerte du ciel à Maryam, Marie, dont il avait la charge, il va invoquer Dieu dans sa prière. Et l'histoire est développée dans Sourate Al-Imran et dans Sourate Maryam, et nous en avons tiré les enseignements. Mais dans cette partie en français, dans laquelle je m'adresse à vous, je vais traiter d'un tout autre sujet. Et je me dois de traiter ce sujet parce que un fléau nous touche, il se répand comme un feu de paille. Il s'agit d'un cancer, le cancer de la communauté musulmane, en tout cas française. Une certaine vision de la religion, de la pratique, qui met les gens dans le malaise, dans la difficulté, qui crée la fitna, qui perturbe les esprits, qui crée des conflits. Il s'agit du littéralisme, mais pas n'importe lequel, car le littéralisme ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu dans l'histoire un littéralisme savant, mais ce littéralisme auquel nous assistons aujourd'hui, c'est un littéralisme ignorant, sans méthodologie, truffé d'incohérences, toujours dans la difficulté, alors que le littéralisme savant d'Ibn Hazm, par exemple, il était, au nom de sa logique, capable d'aller dans la facilité comme dans la difficulté. Mais celui-ci, celui d'aujourd'hui, il est toujours dans la rigueur. Et cela n'est pas sans nous rappeler le comportement de la communauté juive à l'époque de Moussa. Et si Dieu nous raconte les péripéties des Banu Israël avec leur prophète Moussa, c'est pour nous dire, ô communauté musulmane, vous devez faire attention et prendre garde. Ne leur ressemblez pas dans leur approche de la religion. Et malheureusement, certains d'entre nous ressemblent à la communauté des Banu Israël. La communauté des Banu Israël avait une obsession folle du détail. Un détail dans les apparences, un détail qui conduit à la difficulté, un détail dans les interdits. Relisez l'histoire de la vache des Banu Israël quand Moïse demanda à son peuple d'immoler n'importe quelle vache. Et ils vont, par des questions, tirés par les cheveux, pousser Moussa à leur donner de plus en plus de détails jusqu'à leur compliquer la tâche. Et Dieu a dit, ils ont failli ne pas mettre en pratique ce qui leur avait été demandé. À trop poser de questions, dans l'interdit, on finit par délaisser ce qui est demandé au départ. Et aujourd'hui, des gens insistent sur les apparences et ils délaissent ce qui peut déterminer ton sort le jour de la résurrection, c'est la pureté de ton cœur. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où nous, ni les enfants, ni notre fortune ne nous sera d'une utilité, sauf pour celui qui s'est présenté à Dieu avec un cœur pur. Et ces gens n'ont pas de problème de cultiver des vices, de conserver des défauts dans leur cœur, tels l'orgueil, l'ostentation, la dureté du cœur, le manque de miséricorde. Mais par contre, dans les apparences, ils sont dans les détails. Il faut avoir un type vestimentaire bien précis, en prétendant que c'était celui du prophète, alayhi salatu wassalam, alors que le prophète, à son époque, il ne se distinguait pas du commun des mortels. Quand un étranger entrait dans la mosquée du prophète, il le cherchait. Il n'arrivait pas à le reconnaître. Il ne se distinguait pas. Il portait les vêtements des gens de son époque. C'était pas ça qui l'intéressait. Quant à la barbe, ce qui est sunna est devenu obligatoire. Les petits péchés sont devenus des grands péchés parce qu'il y a un manque de compréhension de la religion. Un frère disait, j'ai été longtemps perturbé, j'ai subi une pression psychologique de la part de ces gens sur la question de la barbe et j'étais perdu. Alors il a dit, je suis parti demander conseil à mon meilleur ami qui avait un peu de science et malheureusement il était en prison, injustement, accusé injustement de quelque chose. Et il est parti le voir et il lui a dit, mon frère, voilà ce qui m'est dit. Qu'est-ce que tu en penses? Et regardez sa réponse. Et c'est une réponse pleine de sagesse. Il lui a dit, combien de fois dans le Coran la barbe est citée? Il a dit, je ne sais pas, peut-être une, deux fois dans un récit. Il lui a dit, et dans la sunna du prophète, combien de fois le prophète a insisté sur la barbe? Il a dit, peut-être dans quelques dizaines de hadiths. Il lui a dit, maintenant, je te repose la même question pour le respect des parents, pour le parrainage des orphelins. Combien de fois c'est cité dans le Coran? Des dizaines de fois. La miséricorde, le bon comportement, la fraternité. Il a dit, les versets du Coran ne font qu'insister sur ça. La sunna du prophète. Et il lui a dit, c'est ça ma réponse. C'est-à-dire, insiste dans ta vie sur ce sur quoi insistait Dieu et son prophète. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut délaisser les autres choses. Non. Mais agissons par priorité et arrêtons d'égarer les gens parce qu'ils ont délaissé des choses secondaires, alors que peut-être, mon frère, la personne que tu dénigres et que tu méprises, elle est peut-être au-dessus de toi au paradis. Peut-être que ce frère connaît plus de versets du Coran que toi. Et tu sais que ce qui va t'élever en degré au paradis, ce n'est pas le nombre de poils que tu as sur ton menton, mais le nombre de versets que tu connais et que tu as mis en pratique dans ta vie. Peut-être que ce frère que tu dénigres, il a peut-être dans son cœur une qualité que toi, tu n'as pas, qui te manque. Peut-être qu'il patiente dans sa vie, il vit des épreuves, il patiente. Peut-être que dans son intimité, il fait des choses que tu ignores, mais toi tu le juges sur son apparence. Et c'est une erreur de faire ça. Regardez ce qu'a dit le prophète un jour à Anas ibn Malik. Il lui a dit, oh Anas, celui qui m'aime suit ma sunna, et celui qui suit ma sunna entre au paradis. Oh Anas, ne délaisse pas cette sunna. Laquelle? Avant de dormir, vide de ton cœur de toute rancœur, de toute haine envers tes frères. Alors ces frères qui ont insisté sur le port de la barbe, est-ce qu'ils pratiquent cette sunna chaque soir? Ça m'étonnerait. Parce qu'ils ont parfois de la haine envers leurs frères et ils les égarent. Également, certains d'entre eux se posent trop de questions. Et ils sont dans la perfection de l'interdit, dans les interdits, mais dans le bien, ils sont négligents. Ils s'appliquent dans ce qui est de l'ordre de la sunna, mais dans l'obligatoire, tu les trouves parfois très négligents, très loin. Et dans un mariage, alors qu'ils étaient assis à table, on leur a servi des jus d'orange dans des verres à ballon, je crois qu'on les dit comme ça, verre flûte ou bien verre ballon. C'était des verres qui ressemblent aux verres dans lesquels on boit de l'alcool et ils ont refusé de boire. Parce que le verre qui leur est présenté ressemble au verre dans lequel est servi le vin. Et dans un même mariage, dans un autre mariage, qui était cette fois-ci du côté des sœurs, un groupe de sœurs qui faisaient des chants, des anachis, des chants islamiques, ils ont refusé qu'elles chantent durant le mariage parce que le tam-tam qu'elles avaient n'était pas en peau de chèvre ou de mouton. Et ils disaient que les tam-tams devaient être exactement comme ceux à l'époque du prophète. On est dans des détails, on se complique la vie. Et à cause de ces détails, on empêche les gens de faire le bien. À l'époque de Moussa, les Banu Israël avaient une culture de l'interdit généralisée. Et ses frères, que Dieu les guide, ont souvent ça dans leur, sur leur langue. L'interdit et l'innovation, partout. Une obsession. Ils voient du haram partout. Par exemple, et ça s'est produit à plusieurs reprises, notamment dans une ville du coin, un imam intelligent a demandé à un frère, parce qu'il était lui arabophone et qu'il ne pouvait pas dans son sermon parler en français, il a dit à un frère, je veux que tout le monde profite de mon sermon, donc tu feras une traduction ou tu feras une exhortation en français avant la khutbah, un quart d'heure, 20 minutes avant. Et bien c'est ces gens-là, qui voient de l'innovation partout, ils ont créé un conflit dans la mosquée. Et dans une autre mosquée du coin, ils ont viré l'imam à cause de ça. Parce que le prophète n'a jamais fait ça. Également, dans une mosquée du coin, pour la première fois, ils ont décidé de créer une activité. Et c'était un qiyam al-layl, une veillée nocturne, en groupe à la mosquée, un samedi soir. Et j'y étais. Et on me dira, à la fin de la soirée, que une partie des frères qui se réclament de la sunna, dès que le Isha s'est terminé, ils sont sortis. Ils sont partis dans la cour. Et qu'est-ce qu'ils sont partis faire? De la médisance et de la calomnie. En disant, regardez. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. C'est une innovation. Et vous savez quel argument ils avaient? Ils avançaient pour dire que c'était une innovation, le littéralisme. Quelle est la preuve, disait-il, ramenez-nous un dalil que le prophète a incité ou a pratiqué la prière le soir en groupe à la mosquée un samedi. Vous n'avez pas de dalil, donc vous êtes dans l'innovation. Également, ils vous disent qu'assister, et dit ça aux convertis, à l'islam. Vous n'avez pas le droit d'assister à une cérémonie funèbre, un enterrement, à commencer par l'église jusqu'au cimetière, ou un événement heureux comme un mariage. Pourquoi? Il ne faut pas rentrer dans l'église. D'où tirent-ils ça? Ont-ils oublié, ou ignorent-ils, je pense qu'ils l'ignorent, que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'année 9 de l'Hégire, il a reçu une délégation de Najran, des chrétiens, un groupe de 20 personnes à peu près. Et ils sont entrés dans la mosquée du prophète. Il les a accueillis à bras ouverts. Et il les a même laissés accomplir leur prière dans la mosquée, après que lui ait fini la prière de l'Asr. Quelle ouverture! Et également, Omar ibn al-Khattab, quand il était calife, et Jérusalem était aux mains des musulmans à son époque, il s'est déplacé, il est rentré dans une église à Jérusalem, je pense que c'est l'église de la nativité. Et les compagnons ont dit, « Oh Omar, fais une prière dans l'église. » Il a dit, « Non. Pourquoi ? Parce que c'est haram ? Pas du tout. » Il a dit, « Non, car je crains qu'après ma mort, les gens détruisent. Je crains qu'ils détruisent ce lieu de culte afin de bâtir à la place une mosquée parce que j'ai prié dans cet endroit. Et je veux conserver, leur garantir leur liberté de culte comme c'était convenu. » Donc d'où tirent-ils leur rigorisme? Est-ce qu'ils ont dans le prophète un exemple? Non, je vous jure, ils sont loin du modèle prophétique. Ils vont même jusqu'à dire à certaines personnes qui veulent travailler en milieu hospitalier, t'as pas le droit, c'est haram, parce que tu vas être en contact avec la nudité des patients. Un manque de connaissance de la religion terrible. Et vous savez à quoi ça conduit? Ça conduit à des catastrophes. Par exemple, en Arabie Saoudite, et ça a fait scandale il y a plusieurs mois, dans une université féminine, Une jeune étudiante cardiaque a eu une douleur au niveau du bras, circulation sanguine. Elle est tombée. Et ils ont appelé l'ambulance. Mais c'était des hommes. Et ils ont refusé à l'ambulance de pénétrer afin de sauver la vie de la personne. Et elle est morte. Et c'est pas étrange. Parce que pendant des années, en Arabie Saoudite, les savants ont bloqué tous travaux afin de modifier, d'élargir les endroits où on accomplit chaque année, où des millions de pèlerins accomplissent leur rite. Notamment As-Safa et le Marwa, les deux monticules. Ou bien les stèles, quand on jette les pierres sur les stèles. Des millions de personnes se bousculent et des milliers de personnes sont mortes pendant des années. Et ils refusaient de faire des travaux parce qu'il faut conserver le lieu comme il était à l'époque du prophète. Et après un long travail pour changer les mentalités, ils ont fini par accepter. Mais après combien de victimes ? Ils vous interdisent les images, les photos, les représentations graphiques ou plastiques. Parce qu'ils sont littéralistes et ils ne connaissent pas le sujet. Ou alors on leur a dit exactement ce qu'ils doivent entendre, en piochant des hadiths du prophète, exactement ce qui va dans leur sens, ce qui va dans le sens de la difficulté et de l'illicite. Ils n'ont pas de méthodologie. Ils n'arrivent pas à rassembler les textes, à tous les lire. Ils les ignorent. Et l'un des problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils vont connaître certaines paroles du prophète, pas toutes. Et le pire, c'est qu'ils ignorent la vie du prophète. Et comment tu peux comprendre la sunna si tu prends les paroles et tu n'étudies pas le personnage, sa vie, comment il a mis en application ce qu'il a dit? C'est pas possible. À l'époque de Moïse, les Banu Israël étaient avares, ils étaient matérialistes. Souvenez-vous du veau d'or. Et ce matérialisme va développer des vices chez la personne. Et c'est ce qu'on trouve malheureusement chez certains de nos frères. Ils ne veulent pas cotiser dans les mosquées. Mais ils vont profiter de la mosquée. Et ils sont à l'affût afin de récupérer les mosquées, afin de propager leurs pensées. À Lens, des frères, ils ont eu une bonne initiative. Comme c'est le mois du Ramadan, le mois de la charité, ils ont dit, on va lancer une campagne qu'ils ont nommée un barbecue s'il vous plaît, afin de venir en aide aux SDF. Et ça se passe dimanche. Ils ont demandé aux commerçants musulmans de participer. Et ils ont répondu présent, les boulangers, les charcutiers, les grandes surfaces, sauf deux personnes qui se réclament de la sunna. Quand les frères leur ont dit, aidez-nous, participez à ce bien, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. Pour quelle raison? Parce que vous allez nourrir des personnes durant la journée du Ramadan qui sont censées jeûner, qui sont censées être musulmans. Donc vous êtes en train de les pousser à l'enfer. Incroyable mais vrai. Et quelle a été la réponse du frère? Il lui a dit, mais et toi ta charcuterie? Et toi ta boulangerie? Elle fonctionne durant le Ramadan. Tu vends aux non-musulmans de la viande et du pain. Donc toi aussi tu es en train de les mettre en enfer. Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, non, moi c'est pour mon business, c'est nécessaire, c'est pour que je puisse vivre. Toi, c'est en plus. C'est-à-dire que pour gagner des sous, tu es prêt, selon tes dires, à envoyer les gens en enfer. Et quand moi, je le fais bénévolement pour plaire à Dieu, afin peut-être de toucher leur cœur et peut-être de les guider, je suis dans l'erreur et dans l'égarement. Quelle incohérence et quel vice surtout. Quand tu leur dis boycotte les dates qui viennent d'Israël, ils te disent non. Le prophète à son époque, il faisait du commerce avec les juifs. Mais par contre, il vous envoie des SMS pour vous dire, il ne faut pas aller au Bourget lors de la rencontre annuelle des musulmans organisé par l'UOIF, donc par les frères musulmans, il ne faut pas y aller, parce que vous allez faire tourner le commerce des frères musulmans. Ce qui est faux. Mais c'est ce qu'ils disent. Donc, faire du commerce avec tes frères, c'est haram. Faire du commerce avec un État imposteur et un État qui massacre une population, c'est pas grave. Également, ils vous disent qu'il faut rejeter le système, qui n'est pas un système islamique. Donc pas de mariage civil. On ne veut pas du mariage civil. Il faut faire la hijra, ce que aucun d'eux ne fait. Parce que vous savez ce qu'ils vous disent quand vous leur dites, mais si le système n'est pas bon, si le fait d'être ici, on n'applique pas l'islam, qu'est-ce que tu fais là? Il te dit, je vais faire la hijra. Mais mon frère, qu'est-ce que tu attends? Attends encore un peu, je vais faire la hijra. Donc tu es exactement dans la situation de celui qui commet un péché, la fornication, qui boit de l'alcool, et tu lui dis arrête, et te dit non plus tard, il repousse le repentir. C'est la même situation. Donc ils vous disent qu'il faut faire la hijra, ils ne la font pas. Ils vous disent qu'il faut rejeter le système. Mais par contre, ils profitent du système. Un système qui, selon eux, est fondé et basé sur l'illicite, sur les intérêts, l'usure. Donc quand il s'agit de profiter, il n'y a pas de souci. Quand il s'agit de participer à la, dans la société, ça pose un problème. Également, ce qui était présent chez les Banu Israël, c'est l'orgueil, l'arrogance, le peuple élu. Et vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, nous sommes le groupe sauvé. Et tout le reste des musulmans, ce sont des sectes égarées. Ils vous mettent tout le monde à la poubelle. Et eux, ils vont aller au paradis. Et ça, c'est de l'arrogance. C'est de l'ignorance. C'est du fanatisme. Tous les musulmans qui ne sont pas comme eux sont forcément égarés, même s'ils font du bien. Regardez, tous ceux qui ont fait avancer l'islam, comme les tablir, la da'wa des tablir, les frères soufis, les frères musulmans, tous ceux qui ont fait un vrai travail de da'wa, par exemple en France, eh bien ils vous les mettent à la poubelle, ils vous les égarent. Et dans une discussion avec l'un d'entre eux, vous savez ce qu'il a dit? Écoutez bien, accrochez-vous. Il a dit, je préfère Moubarak au pouvoir en Égypte et Sisi, plutôt que Morsi, qui était élu démocratiquement et qui était là pour établir la justice et combattre la corruption. Pourquoi? Parce que Morsi, c'est un frère musulman et il va égarer les gens. Par contre, les deux dictateurs, c'est pas un souci. Ils massacrent. Ils tuent, ils mentent, c'est pas grave. Ils seraient prêts à vous interdire de voter, alors même que le parti qui peut passer, c'est un parti extrémiste, d'extrême droite. Ils vont dire, non, tu votes pas, c'est haram. Mon frère, celui qui va passer, il va nous faire du tort. C'est pas grave, voter, c'est haram. Ils sont... C'est-à-dire que, et c'était présent aussi chez les Banu Israël, les juifs et les chrétiens, comme le dit Dieu dans le Coran, ils ont fini, avec le temps, par vénérer leurs religieux. Et on a l'impression qu'ils les suivent pas à pas. Non pas qu'ils vénèrent les religieux, mais ils sacralisent les paroles et les avis de certains savants. C'est la vérité, et tu ne peux pas discuter avec eux. C'est lui qui est dans la vérité, les autres ils sont dans l'erreur. C'est une forme de fanatisme, et dans le fanatisme il y a un peu de sacralité. Et ça c'est dangereux. C'est dangereux. Regardez. Un avis de certains savants qu'ils suivent. Pas de critique de l'autorité en place. Fût-elle tyrannique, hein? Même si elle est tyrannique, on ne peut pas critiquer le pouvoir en place. Même s'il massacre. Pas de manifestation. On doit courber les chines. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont changé d'avis. Hein. En Égypte, par exemple. Ceux qui étaient contre la participation politique. Quand Morsi est arrivé au pouvoir et qu'il a mis de la liberté, ou juste avant, quand il y a eu la révolution, ils ont créé des partis politiques. Et quand pendant des années, certaines personnes étaient dans l'opposition contre le dictateur, ils étaient égarés. Trop d'incohérence. Et enfin, les Banu Israël, comme le dit Dieu, leur cœur est devenu dur comme la pierre, voire même plus dur que la pierre. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus dans leur cœur de rahma, de sensibilité. Et certains de nos frères sont durs. Ils sont durs. Ils ont un cœur dur. Et ils sont donc aux antipodes, à l'opposé du prophète qui était une rahma pour tout le monde. Pour les enfants, pour les femmes, pour les gens âgés, même pour les non-musulmans. Mais eux, tu les trouveras extrêmement durs envers les femmes notamment et envers les non-musulmans. La femme, quand il vous parle de la femme, c'est comme si elle était un objet de tentation, un objet de séduction. Il faut la cloîtrer au maximum. Sa voix, même sa voix, elle est tentatrice. Elle ne doit pas parler. Et lors d'une invitation chez l'un d'eux, tellement ils sont dans un délire que tu ne peux pas entendre la voix de sa femme. Si tu entends la voix de sa femme, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et il communique avec son épouse par SMS pour qu'on n'entende pas la voix de sa femme. Alors qu'à l'époque du prophète, le prophète lui-même, il s'asseyait à table avec son épouse, avec des compagnons, ils mangeaient à la même table, ils discutaient. Un rapport décomplexé, naturel. Pourquoi se mettre des barrières et des complexes là où il n'y en a pas? Par contre, discuter avec une femme étrangère, au marché, au commerce, dans la vie quotidienne, ce n'est pas un souci. Mais quand il s'agit d'une musulmane, comme par hasard, le diable intervient. La règle, c'est la polygamie. Et ils sont prêts à détruire leur vie de couple, soi-disant pour bâtir un autre foyer. Ce qui t'est demandé, mon frère, en islam, c'est de réussir ta vie de couple. Pourquoi est-ce que tu vas chercher ailleurs? Est-ce que tu vas détruire ton épouse, tes enfants, au nom d'une exception qui s'appelle la polygamie, qui se justifie dans certains cas? Également, la femme doit mettre le niqab. Il n'y a pas matière à discuter. Également, pas de permis de conduire, comme c'est le cas dans un pays en particulier. Mais par contre, comme là on atteint des extrêmes, ces frères-là prennent ce qui les arrange. C'est-à-dire que leur femme a un permis de conduire. Ça, c'est... Quant aux non-musulmans, c'est comme si notre rapport à eux, c'était un rapport de conflit, de guerre. Et donc, il faut les suspecter. Il faut toujours les regarder d'un mauvais œil. Il faut s'écarter d'eux au maximum, prendre des distances. Et ils ne connaissent pas la vie du prophète. Ils ne savent pas comment le prophète était avec les non-musulmans. Ils ne savent pas que le prophète, son objectif, c'était de gagner le cœur des gens. Car au minimum, ce qu'il attendait, c'est quoi? C'est que ces gens n'entrent pas en conflit avec. C'est que les rapports soient des rapports apaisés. Et au meilleur des cas, si Dieu le veut, qu'ils soient dans l'islam. Mais avec leur manière de penser, ils condamnent tout le monde. Et ils repoussent les gens. Ils font peur, ils font fuir. Et tout ce que je dis se résume en cette chose, c'est que les Banu Israël, comme le dit dans le Coran, ils se sont mis des chaînes, ils se sont enchaînés eux-mêmes, et ils se sont imposés un fardeau. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu, et s'est dit dans le Coran, « يَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ » Le prophète est venu afin justement de réformer cette manière de concevoir la religion, afin de retirer les chaînes et le fardeau qui pesait sur ces gens. C'est-à-dire que l'islam, quand tu deviens musulman, quand tu reviens à la pratique, tu connais un bonheur, tu t'ouvres, tu t'épanouis, tu te libères. Et on a l'impression que ses frères, quand ils entrent dans l'islam ou quand ils reviennent vers Dieu, ils deviennent durs, ils s'enchaînent, ils se mettent des barrières, ils se mettent mal à l'aise et ils mettent les gens mal à l'aise. Et c'est pas ça l'islam. Ce n'est pas ça. L'islam est censé nous rendre heureux. L'islam est censé nous rendre à l'image du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est une question de temps. Ces gens qui sont dans la dureté, dans le rigorisme, c'est une question de temps. Ils vont tourner en rond. Et ils vont s'épuiser. Et ils finiront par s'arrêter là où nous, nous avons commencé. Et le prophète a dit, « Halaka al-mutanatti'un, les rigoristes sont voués à leur perte, parce qu'ils vont à l'encontre de leur nature humaine, à l'encontre de leur société et de la vie humaine. Ils vont se fatiguer. » Et comme le dit le prophète, « Al-qasda al-qasda tablughu, la modération afin que vous réussissiez. » Et je vous jure que les savants ne sont pas comme ça. Ce sont généralement des gens qui n'ont pas de science, qui prônent ce genre d'avis, qui sont dans la complication, la dureté et le rigorisme. Regardez par exemple, Abdullah ibn Mutliq, qui est un savant d'Arabie Saoudite, quand il est venu en Belgique, il a passé un séjour. Et quand on lui posait la question auparavant, il disait que le rassemblement des prières en période d'été, nous, dans nos pays, c'était quelque chose à ne pas faire, comme ils le disent d'ailleurs. Et bien quand il est venu en Belgique et qu'il a vu comment c'était, le fait de prier l'Isha hyper tard et le Fajr hyper tôt, il a dit, vous devez rassembler les prières. C'est pas humain. C'est pas humain. La nuit, elle est faite pour dormir, pour se reposer. Vous avez des dérogations, des allégements dans la religion. Pourquoi vous les délaissez? Et quand Abdullah Al-Muslih, qui est un éminent savant, un grand savant, et qui est très connu dans les médias, qui a des émissions de fatwa, quand en tête à tête il a discuté avec un savant qui fait partie du conseil de la fatwa européen, et que ce savant lui a expliqué le contexte franco-français, et qui lui a détaillé et argumenté l'avis du crédit immobilier. Vous savez ce qu'il a dit? Mais ça, c'était en privé. Il a dit, je ne savais pas, tu as raison. Mais il ne le dira pas en public. Parce que sinon, on va lui tomber dessus. C'est-à-dire que les savants, quand ils vont dans un endroit, ils revoient leur compréhension de la religion. Ils revoient leur fatawa, leurs avis, parce que les avis juridiques, les avis religieux, ils s'adaptent à la société. Il y a des paramètres qui font que tu es obligé de t'adapter. Et c'est ça la fatwa. La fatwa, elle est circonstanciée en fonction du contexte. Et quand ces gens changent de contexte, ils changent de fatwa. Et c'est pour ça que le SMS qui tourne depuis maintenant quelques jours et qui sème la fitna entre les gens, le SMS sur les horaires de prière, les méthodes de calcul 12 ou 18 degrés, ils sont en train de vous dire et de prétendre que c'est cette trentaine de savants dans le conseil de la fatwa européen, qui ont fait un travail depuis 20 ans, qui se sont penchés sur la question depuis 20 ans, ils sont dans l'erreur et dans l'égarement? C'est-à-dire que il y a un vrai problème. Et un vrai problème dans ce qui se passe dans leur tête. Vous avez 30 savants, une trentaine de savants, religieux et non religieux, qui se rassemblent, qui discutent d'une question. Une question qui est ouverte à l'ijtihad, à l'interprétation. Et ils arrivent à une conclusion à majorité. Et c'est appliqué depuis 20 ans. Du jour au lendemain, on veut tout mettre à la poubelle. Du jour au lendemain, on veut dire que tout le monde s'est égaré. C'est quand même gros, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est aussi naïf? Est-ce qu'on est aussi fragile pour tomber dans le panneau? Demain samedi, le programme ici à la mosquée de Rem de 14h à 15h, un cours de récitation pour les sœurs, du cours de récitation du Coran, de 15h à 17h, un cours de religion pour les sœurs, et les enfants sont les bienvenus car l'imam va leur réciter, va leur relater des récits. Ensuite, à 20h, la vie du premier calife Abu Bakr jusqu'à 21h30, et ensuite la rupture du jeûne ensemble. Vous êtes tous les bienvenus. Ramenez vos familles et ramenez avec vous de la nourriture car on met en commun notre nourriture. Et ensuite, après le Tarawih, il y aura une explication des commentaires de Sourat al-Hujurat, les appartements, et on est ensemble jusqu'au Fajr. Et nous recevons aujourd'hui le CBSP, Comité de Bienfaisance et de Soutien du Peuple Palestinien, et vous avez suivi l'actualité, le peuple palestinien est encore en train de souffrir au moment où l'on parle, et ils étaient sur le point de s'unir, Fatah et Hamas, les deux grandes composantes politiques du peuple palestinien, et voilà que l'État d'Israël a fomenté, a inventé un scandale afin de miner cette volonté de s'unir. Et ils sont en train de souffrir, on doit les aider. Donc n'hésitez pas à faire don de votre argent et la semaine prochaine, la collecte sera pour la mosquée. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين اللهم إنا نسألك حسن الفهم في الدين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم أموات المسلمين جميعا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة